Bienvenue sur le podcast Secrets de Management. Et si le management était tout simplement l'application de méthodes humaines, simples et pragmatiques? Je suis Nandi Dossou, fondatrice du cabinet Excellence Conseil, cabinet qui accompagne les managers start-up et scale-up à développer l'excellence managériale. En d'autres termes, j'aide à l'acquisition et à l'ancrage de compétences managériales clés qui créent du résultat, favorisent l'épanouissement et permettent de réussir l'ambition. L'objectif du podcast, vous partager des méthodes managériales simples, humaines, parfois marrantes, mais qui sont redoutablement efficaces pour réussir son management. Vous êtes prêts? Let's go! Bienvenue sur l'épisode 2 du podcast Secrets de Management. Je suis heureuse de vous accueillir et aujourd'hui, nous allons parler des 4 savoir-faire du manager compétent. Être manager, c'est être à la fois à l'intersection des besoins de son équipe, mais aussi des besoins de sa direction. Pour cela, il y a 4 savoir-faire qui permettent d'exercer ce rôle avec beaucoup d'aisance. Alors, vous êtes avec moi? On va les découvrir ensemble. Le premier savoir-faire, c'est savoir collaborer. Pourquoi? Parce que quand on est manager, c'est vrai, on apprend et on emmène ses équipes à collaborer ensemble pour atteindre les résultats qui sont attendus. Mais en fait, certains résultats ne vont pas dépendre des équipes. Certains résultats vont dépendre de votre capacité à collaborer avec d'autres managers pour résoudre certaines problématiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on n'a pas cette capacité de collaborer, on se retrouve en fait à subir. Vous savez, d'autres managers peuvent mettre en place des process qui en fait vous impactent négativement. Il existe une façon de travailler dans l'organisation qui en fait ne vous emmène pas à atteindre vos objectifs ou alors qui agissent négativement sur l'état d'esprit de votre équipe. Savoir collaborer va vous permettre de ne pas subir ces choses. Bien entendu, savoir collaborer, cela demande de mobiliser différentes compétences. On arrive à collaborer parce qu'on a une vision claire de ce sur quoi on voudrait collaborer. Donc avoir une vision claire va être assez importante parce qu'elle va vous permettre d'articuler la raison pour laquelle la collaboration est nécessaire et donner envie. Une collaboration a un impact qui va être bénéfique pour vous, mais aussi pour le manager qui collabore avec vous. Savoir collaborer, c'est savoir proposer cette collaboration, mais c'est aussi savoir accepter des collaborations. Alors, je vais vous donner un exemple pour le rendre plus clair. Lorsque je dirigeais l'équipe d'implémentation projet dans une start-up, l'équipe était constamment sous l'eau et puis à gérer constamment des urgences. À chaque fois, j'étais sollicitée en fait pour identifier des ressources en dernière minute parce qu'un nouveau contrat venait d'être signé. C'était la fête, on était contents, il fallait trouver des ressources, mais c'était ingérable. C'était ingérable pour moi, c'était ingérable pour les équipes. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sollicité mon homologue manager, qui était le manager de l'équipe commerciale, pour définir un process qui allait être viable. L'objectif, en fait, de la collaboration, c'est que je voulais qu'on ait de la visibilité sur les contrats à venir et puis pouvoir définir en amont les ressources. Et d'ailleurs, ça allait faciliter la tâche à ces commerciaux, puisque du coup, ils allaient pouvoir, en vue de la clôture du contrat, pouvoir déjà mettre en relation la personne chargée de l'implémentation avec le client. On avait un bénéfice mutuel, gain de temps, moins de stress, meilleure intégration client. Bingo, ça a été le cas, on a pu mettre en place cette collaboration, changer différentes choses au niveau du CRM pour rendre visible le pipeline, mais aussi pouvoir, dès le début du projet, alerter les équipes d'implémentation, qu'elles soient assignées sur les projets et faciliter un peu les choses. Donc pour vous qui m'écoutez, question, avec qui allez-vous collaborer ou mieux collaborer cette année pour pouvoir justement non seulement faire avancer vos sujets, mais aider aussi vos homologues à faire avancer leurs sujets. Le deuxième savoir-faire, c'est savoir gérer. Souvent, on dit, oui, je gère une équipe de 10 personnes, je gère une équipe de 2 personnes, je gère une équipe de 15 personnes. Je vais peut-être vous surprendre, mais pour moi, savoir gérer, ça passe déjà par savoir se gérer. On ne peut gérer les autres que lorsqu'on sait se gérer soi-même. Parce que comment on peut gérer les autres si on ne sait même pas se gérer soi-même? Et vous pouvez me dire, mais Nandi, ça veut dire quoi se gérer soi-même? Eh bien, bonne question, je vais vous dire ça. C'est déjà savoir gérer son stress. La vie apporte son lot de stress. C'est vrai, on ne vit pas dans un monde parfait. Et ce stress peut venir à la fois de notre sphère personnelle ou même de notre sphère professionnelle. Savoir gérer ce stress est hyper important puisque lorsqu'on ne sait pas le faire, on va le passer à notre équipe. On va le faire ressentir à notre équipe. Et comment ? Ah ben, notre ton de voix. On peut devenir très rude dans notre façon de parler parce qu'on est complètement stressé. Ça peut se traduire dans notre façon d'interagir. Ça peut se traduire par le ton de nos emails. Ça peut se traduire par du micromanagement. Je suis stressée, je ne fais pas confiance, je suis sur le dos de mes équipes constamment. Et puis ça peut se traduire par de l'autoritarisme. Je donne des ordres, je ne veux rien comprendre, c'est moi qui décide, je suis stressée. Et en fait, vous êtes bien d'accord avec moi que c'est extrêmement néfaste. Ça tue l'esprit de l'équipe, ça détruit la culture de l'entreprise, ça a un impact sur le bien-être. Et en fait, même à vous, ça ne vous fait pas du bien. Donc déjà, savoir gérer son stress fait partie de savoir gérer. Deuxième chose, c'est savoir gérer son temps. Ah bah oui, puisque quand on est manager, on n'est pas juste là pour regarder ce que font les équipes. Être manager, c'est savoir aussi exécuter ses propres tâches. Et quand je parle de tâches, vous êtes d'accord avec moi, administratif, réunion, projet, il y a des choses à faire. Donc lorsqu'on sait gérer son temps, ça permet de mieux gérer son équipe puisqu'on saura mieux définir le temps à allouer à ses équipes et le temps à allouer à ses propres priorités. Savoir gérer, c'est aussi savoir gérer ses priorités. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est à déléguer? Qu'est-ce qui est à reporter? Qu'est-ce qui est à abandonner? Savoir gérer ses priorités demande à être aligné avec ses objectifs et la vision qu'on a pour son équipe. Si vous avez envie d'avoir une équipe qui est collaborative, si vous voulez avoir une équipe où on est transparent, on se dit les choses, où il y a une atmosphère positive, ça veut aussi dire de prendre le temps d'avoir des points individuels avec les membres de votre équipe. Mais si vous n'avez pas de vision, vous allez être porté par tout ce qu'il y a à faire et finalement ne pas faire avancer la vision que vous avez de votre équipe. Maintenant, bien sûr, dans le monde des startups, ça va vite, c'est le rush, ce n'est pas parfait. C'est pour cela qu'on parle d'environnement fast-paced, parce que ça va très vite. Et pouvoir justement gérer ses priorités, c'est savoir saisir au vol les priorités et puis décider clairement de ce qu'on laisse tomber. Se focaliser sur l'essentiel. Il en va pour votre propre santé mentale et celle aussi de vos équipes. Alors donc là, on vient de voir un peu savoir gérer qu'est-ce que c'est, hein, gérer son temps, gérer son stress, gérer ses priorités. Troisième savoir-faire, savoir innover. Alors ça peut surprendre, parce que vous pouvez me dire, mais Nandi, innover, je ne comprends pas. Moi, je suis responsable commercial, moi j'ai des objectifs à atteindre, moi je suis responsable comptable, moi je suis responsable de l'équipe support, je ne vois pas trop en quoi l'innovation me concerne, je ne suis pas de l'équipe produit. L'innovation, c'est une compétence managériale, c'est un savoir-faire managérial, parce que c'est le savoir-faire qui nous permet de mener le changement. Quand on est manager, les choses sont organisées, les process sont mis en place ou pas mis en place, ça dépend. Et en fait, l'innovation, si nous l'avons, c'est ce qui va nous permettre en fait de changer les choses, de les rendre meilleures. Maintenant, savoir innover, ce n'est pas forcément quelque chose de massif. On peut innover dans la façon de tenir ses réunions. On peut innover dans la façon d'organiser ses rendez-vous. L'innovation, c'est vraiment aller rechercher ce que je peux faire de mieux, de meilleur dans ma situation actuelle, avec les personnes avec qui j'interagis dans mes fonctions actuelles. Qu'est-ce qui peut être amélioré? Parce que lorsqu'on n'a pas cette compétence, qu'est-ce qui se passe? C'est le status quo. On fait les choses parce qu'on les a toujours faites ainsi. Du coup, on n'emmène pas les équipes plus loin. Et puis, cela peut être une cause de lassitude ou de turnover. Mener le changement demande beaucoup d'énergie. Parce que c'est vrai, hein, on dit ça ne sert à rien de réparer ce qui n'est pas cassé. Mais souvent, ce qui n'est pas cassé n'est pas ce qui nous permettra d'aller plus loin. Quand on mène le changement, quand on est innovatif, on va chercher des nouvelles idées. Et ces nouvelles idées, on va d'abord aller les chercher avec nos équipes, notre équipe. C'est bien d'avoir des réunions de brainstorming, pas pour juste faire parler et se dire, voilà, au moins j'ai fait, ils vont me laisser tranquille, mais vraiment pour pouvoir aller chercher des projets communs à réaliser, des changements à faire, de l'innovation à mettre en place. Cela demande aussi une ouverture d'esprit pour découvrir ce qui se fait de mieux ailleurs et s'en inspirer. Cela demande de pouvoir fédérer et faire exécuter le changement au bon moment. Donc, vous voyez que le savoir-faire innover a réellement son importance. Je vous donne un exemple pour ne pas que cela soit abstrait, hein, puisque secret de management, hein, ça doit être toujours pratique et pragmatique. Quand je suis arrivée dans une start-up pour diriger l'équipe Customer Success, cette équipe avait l'habitude de tenir les réunions de lundi matin. Et c'était des réunions qui étaient censées faire la revue des différentes problématiques clients en cours et l'organiser et se rassurer que c'était pris en charge. Et puis s'il y avait des situations de crise, des situations tendues, qu'on puisse les assigner, les faire avancer, voir avec les développeurs, etc. Et donc moi, je me dis, bon, ok, j'en fais une, deux, et je me dis non, ça doit changer. Pourquoi? Parce que pour moi, lundi matin, c'est le démarrage de la semaine. Et quand on commence des réunions directement dans le vif du sujet, je ne trouvais pas ça sain. Ça ne veut pas dire que si c'est le cas de votre réunion, ce n'est pas sain. Moi, je ne trouvais pas ça sain parce qu'en fait, ça focalisait l'équipe sur les choses qui n'allaient pas. Revenir le lundi, alors on a tel problème, on a tel problème, on a tel problème. Où s'en est sur le tableau Kanban? Est-ce que c'est à faire? Est-ce que c'est en cours? Et en fait, on restait uniquement tête dans le guidon dans les choses qu'il y avait à faire. Et donc, l'innovation pour moi était de dire, vous savez ce qu'on va faire? Déjà, le temps de réunion va être réduit, on va être à une demi-heure. On va d'abord parler des succès de la semaine. Il s'est passé de belles choses la semaine dernière. Des clients nous ont félicités. Donc, quelqu'un va être chargé chaque semaine d'aller revoir toutes les revues positives qu'on a reçues des clients. D'accord? Déjà, changer le mindset. Ensuite, on prenait ce moment pour voir aussi les nouveautés côté produit, les changements au niveau des développements qui ont été faits, des ajustements, des déploiements qui ont été mis en place. Et puis, moment aussi pour moi, leur donner des nouvelles côté leadership, côté information entreprise à savoir. Et une fois cette réunion réalisée, on avait des réunions séparées business. Ça permettait de mettre tout le monde en jambes le lundi et ensuite on attaquait nos sujets. Encore une fois, c'est pour vous dire, pas de faire ce que j'ai fait, mais de vous dire en fait que par rapport à les habitudes, des façons de faire qui existent, on peut innover très simplement si cela permet de résoudre une situation particulière. Dans mon cas, je voulais mettre un mindset plus positif dans l'équipe support. Je voulais qu'ils apprennent à être fiers d'eux, de ne pas uniquement voir que des tickets, mais de se dire qu'il y a de bonnes choses qui se passent et surtout de pouvoir en apprendre pour pouvoir mieux faire. Dernier savoir-faire et on finit cet épisode, c'est savoir développer. Savoir développer, trois choses rapidement. C'est déjà savoir développer son équipe. Développer son équipe, c'est emmener son équipe à développer leurs compétences. C'est les emmener à être capables de réaliser leur rôle actuel et puis d'être meilleurs pour leur rôle à venir. Une des choses que j'aimais souvent dire à mes équipes, c'était que je voulais qu'ils deviennent meilleurs pour leur rôle actuel, mais aussi pour leur promotion ou leur futur employeur. Parce qu'il faut se dire la vérité, les gens ne vont pas rester éternellement avec nous quand on est manager. Et savoir les projeter vers leur étape qui sera soit dans l'entreprise ou ailleurs, c'est bien. Parce que ça leur permet de se dire, j'ai un manager, en fait, désintéressé. Il ne veut pas que je me développe pour qu'il me donne plus de travail, en fait. Il veut que je me développe pour mon propre bien. Développer, c'est vraiment faire travailler, faire améliorer l'employabilité de ces managers, des personnes qu'on manage. C'est également mieux se connaître. Il existe plusieurs questionnaires de personnalité pour mieux se connaître. Et si vous n'en avez jamais fait, je vous invite à le faire. Que vous soyez friand du MBTI, que vous soyez friand de ProcessCom, que vous soyez friand de la méthode DISC, n'hésitez pas à tester pour vous en faire une idée. Maintenant, en tant que coach certifié sur la méthode arc-en-ciel DISC, il n'y a rien de tel que de prendre un moment pour se faire accompagner, pour mieux se comprendre. Franchement, ça vous prend, allez, 2, 3, 4 heures maximum et vous allez avoir quelqu'un qui va vraiment vous faire un véritable débrief de votre personnalité et vous aider à y voir clair, mais surtout pouvoir en tirer des pépites sur vous, les forces sur lesquelles capitaliser, vos axes d'amélioration, l'environnement qui vous est optimal, votre façon naturelle de gérer des situations difficiles, votre façon naturelle de gérer des personnes qui sont à votre opposé. Pourquoi ? Parce que notre personnalité influe sur notre rapport aux autres. Donc pouvoir comprendre cette personnalité en profondeur et voir justement comment se développer est majeur. Et puis notre personnalité va déterminer l'environnement qui nous est optimal. Ou alors notre personnalité va nous créer un environnement qui ne nous est pas optimal. Et notre personnalité détermine notre degré de confiance en nous-mêmes. Donc, vous voulez en savoir plus sur votre personnalité ? Peut-être que je vous ai donné envie. J'ai un bilan managérial en ligne. Il est offert. Il vous permet d'y voir plus clair. Donc, vous regardez sur les liens qui sont dans les ressources au niveau de la description de l'épisode et vous allez pouvoir ainsi aller faire ce bilan, y voir plus clair. Et bien entendu, si vous voulez y aller plus loin, voilà, recherchez une personne, un coach qui peut vous accompagner sur ce sujet-là. Sinon, n'hésitez pas à dire « Non, dis, je veux bien. » Qu'importe. Et puis, dernier élément dans savoir développer, c'est savoir gérer les conflits. Il y a une étude de OPP Consulting qui montre qu'on passe 1h48 à gérer les conflits par semaine en France. C'est énorme. Ce n'est pas forcément votre cas, mais c'est énorme. On peut, selon notre nature, avoir tendance à fuir les conflits, à les confronter, à les exacerber ou à les solutionner. C'est important d'apprendre à savoir solutionner les conflits tant que cela relève de notre ressort. D'accord ? Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la prochaine formation que je veux faire, c'est justement sur la résolution de conflits. C'est pour cela, encore une fois, rejoignez la plateforme, comme ça vous serez prévenu dès que la formation elle est prête. On vient de voir les 4 savoir-faire du manager compétent. Savoir collaborer, savoir gérer, savoir innover et savoir développer. À l'intérieur de ces 4 savoir-faire, j'ai donné des exemples pour justement clarifier mon propos et vous aider à définir un axe d'amélioration ou alors à vous féliciter en vous disant hey, « Hé, alors moi j'ai déjà cette compétence. » Maintenant, nous ne sommes pas parfaits. Et c'est pour cela que, oui, félicitez-vous sur les compétences, les savoir-faire que vous avez déjà acquis, mais pensez aussi à celui qu'il y a à acquérir. Et essayez de mettre quelque chose en place pour justement progresser. Ça va vous faire du bien et ça va faire du bien à vos équipes. Si vous avez aimé cet épisode, évaluez-moi sur Apple Podcast si vous êtes Team Apple ou alors sur Spotify. 10 heures si vous êtes team Android, je partagerai votre revue dans un prochain épisode. Merci beaucoup et à très vite. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. J'espère que vous avez pu tirer de cet épisode une idée, une stratégie, un plan ou tout simplement une joie particulière qui va faire la différence pour vous et vos équipes. Si nous ne sommes pas encore connectés sur LinkedIn, n'hésitez pas à m'envoyer une demande de connexion en précisant que vous êtes abonné au podcast. Et pour finir, sachez que vous pouvez réserver un rendez-vous stratégique gratuit d'une demi-heure avec moi pour parler de vos challenges ou de vos aspirations managériales. Je vous dis à très vite.